Bonjour à chacun, chacune. Merci au Saint-Esprit d'avoir dirigé la première partie du culte de la même façon qu'il a dirigé, je pense, ce qu'il m'a mis à cœur de vous apporter, qui sera donc dans vraiment une continuité. Ce matin, je voudrais vous parler un peu de spiritualité. Et pour cela, je vous propose d'évoquer l'exemple d'un homme de foi, un certain George Müller, un homme du 19e siècle. Tu mets la première, Corentin ? Non, c'est pas bon. Ça marche toujours à l'entraînement et jamais quand on veut le faire, ce truc. Voilà. C'est pas trop petit à lire. Une citation de ce qu'il a écrit. Au cours de ma vie chrétienne, qui comprend actuellement une période de 69 ans et 3 mois, je n'ai pas le souvenir d'avoir recherché la volonté de Dieu une seule fois avec sincérité et persévérance, au moyen de la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, sans avoir été invariablement conduit sur la droite voie. Mais lorsque la droiture du cœur et l'intégrité devant Dieu m'ont fait défaut, et que je n'ai pas su attendre, avec patience, le conseil de Dieu, mais que plutôt j'ai préféré le conseil de mes semblables aux déclarations de la parole du Dieu vivant, alors j'ai commis de graves fautes. George Müller avait 89 ans quand il a écrit cela, donc il s'est converti à 20 ans, et le Seigneur lui a donné encore 4 années à vivre après cela. Et sa biographie a été réécrite dernièrement dans un livre pour enfants, que je sais certains de nos enfants ont eu dernièrement. C'est ce qui m'a donné l'idée de lire son histoire aussi pour un cours que j'ai à la HET, donc anciennement Institut Biblique Emmaüs, où je suis un vieil étudiant, dans un cours intitulé « Spiritualité personnelle et communautaire », où je devais étudier une figure de l'histoire chrétienne et faire ressortir les éléments importants de sa spiritualité. Et j'ai tellement été interpellé par ce livre que j'ai souhaité vous encourager par son exemple. Pour faire un rapide résumé que vous avez déjà pu trouver dans le mail que j'ai envoyé jeudi, si vous l'avez reçu, ce dont on a l'adresse email, si vous avez eu le temps de le lire. George Müller est né en Allemagne en 1805 et son père voulait qu'il soit pasteur. Ouais, excellente idée. Mais même si ça peut nous paraître paradoxal, ce n'était pas nécessairement pour servir Dieu. C'est parce que son père pensait qu'il aurait une belle carrière et jouirait d'une vie agréable et confortable en étant pasteur. C'est vrai, hein, je vous le confirme, confortable et agréable d'être pasteur. Un peu étonnant quand même, mais surtout triste. On peut être dans le christianisme et même avoir un ministère dans l'Église sans avoir la foi chrétienne. C'est fou, mais c'est encore le cas de nos jours parfois. Je crois que je l'avais déjà évoqué cet exemple, mais j'ai lu il y a 4-5 ans, dans un journal très sérieux, que l'Église réformée aux Pays-Bas avait ordonné un pasteur athée. On peut se dire, il n'y a pas un petit problème dans l'énoncé là, mais non. Ordonner un pasteur qui ne croit pas en Dieu. Affligeant, mais pourtant triste réalité. Bref, tout en suivant des études de théologie, George Müller volait, mentait, buvait, faisait la fête. On a le droit de faire la fête, mais là, c'était dans le mauvais sens du terme. Et de la prison aussi, parce que comme il ne payait pas ses dettes, et il faisait un peu n'importe quoi, il a le droit de faire un peu de prison aussi. Mais à 20 ans, Dieu le rencontre, vraiment, et il accepte Jésus-Christ comme sauveur et seigneur. Pardonné, il est transformé radicalement, mais aussi petit à petit. Et le déclic de sa conversion est intéressant, je trouve, alors je vous le partage aussi. On parle peut-être d'une façon de faire que l'on ne fait plus dans nos églises de nos jours, mais au-delà de la forme, soyons vraiment attentifs au fond qui est véhiculé par là. Un jour, Georges s'invite à une réunion de prière. Je dis « il s'invite » parce qu'en fait, il est plutôt motivé par l'ironie et l'envie de se moquer un peu de son copain qui, lui, lui a dit qu'il allait à cette réunion de prière. Il dit « Ah, ben, je viens avec. » « Ah bon, t'es sûr ?» Le copain n'était pas très chaud pour l'emmener, mais bon. Et là, il dit « Dans la bibliothèque se trouvaient des hommes qui avaient formé un cercle. Assis sur un tabouret peu confortable, Müller dévisagea tout dans la pièce. Aucun de ces hommes n'avait l'air particulièrement sanctifié, mais ils avaient l'audace de se réunir dans des maisons et de lire des sermons alors que l'Église officielle n'approuvait pas cette conduite. Quelqu'un dit en introduction « La bienvenue à tous nos visiteurs ce soir et nous prions que Dieu bénisse leur âme. » Frère Kaiser, voulez-vous demander à Dieu d'être avec nous ce soir ? De l'endroit où Müller se trouvait, il lui sembla pendant une minute qui eut l'air de durer une éternité que le frère Kaiser s'était évanoui. Le frère se leva, ses genoux s'avancèrent légèrement, puis il sembla s'effondrer, mais personne ne se précipita pour l'aider à se redresser. Il s'agenouilla sur le plancher. Müller le dévisagea avec un amusement fasciné. Un non-conformiste qui s'agenouillait en public. Puis le frère Kaiser se mit à prier, et il sembla à Müller qu'il parlait à quelqu'un qui se trouvait dans la pièce, et qui possédait une telle puissance qu'il voulait indiquer sa soumission par ce geste physique. Müller n'avait jamais vu auparavant un homme s'agenouiller pour prier. Pourquoi s'est-il agenouillé ? Ce que j'ai vu ce soir, je ne l'oublierai jamais, se disait-il. De retour chez lui, Georges ne cessa d'y repenser. Comme il était simplement curieux, il était entré chez un étranger, s'attendant à chanter quelques hymnes d'un air distrait et à recueillir quelques bonnes phrases pour taquiner son ami plus tard. Au lieu de ça, pourquoi un homme agenouillé par terre à côté d'une chaise l'avait tellement secoué ? Soudain, il comprit. C'est parce que cet homme indiquait dans chaque muscle de son corps qu'il adorait, qu'il craignait et connaissait vraiment le Dieu vivant. Quel homme et quel Dieu ! Il doit s'agenouiller parce qu'il veut dire à Dieu qu'il est humble et humain et que le Seigneur est tout-puissant et très sage. Il montrait son respect, sa crainte, son admiration. Quel homme se doit être pour oser faire cela ? S'incliner devant le Dieu tout-puissant. C'est cela la véritable adoration. Depuis des années, depuis le jour de sa confirmation, Müller savait tout de la doctrine. Il comprenait parfaitement, mais intellectuellement, que Jésus-Christ était mort sur la croix pour sauver un monde coupable. Mais cette expiation ne signifiait rien pour lui. Cela ne signifiait rien pour lui parce qu'aux yeux de Müller, Dieu n'existait pas vraiment. Il le comprenait bien maintenant, et parce qu'il avait vu un homme s'agenouiller pour prier, il avait aussi vu Dieu. Il alla à côté de son lit et s'agenouilla assez gauchement. Le sol lui semblait froid et peu confortable. Il ne savait pas s'il devait se couvrir le visage de ses mains ou appuyer les coudes sur le matelas, mais cela n'avait pas vraiment d'importance. Il commença à prier. Quand je m'agenouille comme ça, quand je m'abaisse devant le Très-Haut, quand je m'humilie devant le Tout-Puissant, alors Dieu devient réel. Enfin. Dieu, ce soir, je t'appartiens, dit-il. Dieu, ce soir, je t'appartiens. Il resta agenouillé près d'une demi-heure, puis il se releva un peu raide et s'assit sur son lit. Il savait que quelque chose de merveilleux venait de lui arriver. N'hésitons pas à inviter des gens à nos réunions. Dieu peut interpeller et se faire connaître sans même que nous nous en rendions compte. On a là l'exemple de Müller. Georges termine ses études de théologie, qui désormais ont du sens. Et il dit à son père qu'il ne sera pas pasteur. En tout cas, pas le style de pasteur que son père voulait. En fait, il rêve de devenir missionnaire au loin. Mais Dieu l'envoie plutôt en Angleterre, voisine, et lui met à cœur les orphelins et les personnes pauvres. Quel rapport avec la spiritualité que j'évoquais comme thème aujourd'hui ? Mais qu'est-ce que la spiritualité ? J'avoue que c'est un mot qui, moi-même, je n'aimais pas trop avant ce cours que je viens d'avoir. Je l'associais automatiquement à ce genre de définition très en vogue dans notre société. Ici, une citation d'un bouquin de 2017 intitulé « 100 conseils spirituels pour être heureux ». Je ne vous le conseille pas. Le mot « spirituel », dit cette citation, fait référence à l'esprit. N'y voyez pas nécessairement une connotation religieuse. L'esprit fait simplement référence au socle de notre être, ce que nous sommes vraiment dans la profondeur. Des conseils spirituels sont donc des conseils qui s'inscrivent dans le cadre d'un chemin vertical vers la profondeur, vers le cœur de notre être, là où se trouve vraiment le bonheur que nous cherchons vraiment. Faux, faux et archi-faux. Le bonheur est-il au fond de l'être humain ? Si vraiment c'était le cas, je pense que ça se saurait. Très, 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 très au fond, alors ? Non, même pas. Pourtant, ce genre de valeur et de raisonnement du monde, comme on a pu le voir aussi dernièrement à travers les prédications sur l'épître de Jean, ce genre de raisonnement essaye de s'immiscer dans l'Église, dans nos esprits et dans nos propres raisonnements. L'homme spirituel est celui qui vit ou qui essaye sincèrement de vivre selon les plus hauts idéaux de l'Évangile. Une vie plus intense, une vie de plus intense union au Père par Jésus-Christ sous le pouvoir de l'Esprit-Saint. Une autre citation qui me semble plus juste. Le but de la spiritualité, c'est effectivement de vivre l'Évangile. Et la source, l'unique source, ne se trouve pas au fin fond de nous-mêmes, mais en Dieu. La source, c'est Dieu. C'est en tout cas le message biblique. Dieu est la source originelle et ultime de la vie spirituelle. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à la communion avec Dieu. La bonne question quand on réfléchit spiritualité, c'est certainement de se dire, mais où est-ce que ma place se trouve ? Où est-ce que ma juste place se trouve ? La spiritualité biblique me dira de rester irrigué par la source. L'humain et le divin restant distincts, mais l'alliance qu'offre Dieu est le juste et bon cadre. Et à Dieu seul soit la gloire. Cependant, si l'objectif de notre spiritualité n'est pas de faire alliance avec Dieu, nécessairement nous allons faire alliance avec autre chose, consciemment ou inconsciemment. Il y a ainsi deux déviations possibles dans la spiritualité. D'un côté, ce qu'on qualifiera peut-être de spiritualité orientale, proposant l'illusion de s'élever avec l'objectif de se fondre dans la source. Et de l'autre côté, peut-être un peu l'inverse, la spiritualité occidentale moderne, où l'on cherche plutôt à capter la source. Abaisser Dieu jusqu'à nous, il l'a fait d'une certaine façon, mais pas de cette façon-là. Parce que là, Dieu s'efface, on essaye d'effacer Dieu en tout cas, et le pôle humain prend toute l'ampleur, on se prend pour Dieu, ou on le met de côté. Et c'est vrai que si on veut bien y réfléchir, on remarquera que par spiritualité, aujourd'hui, la plupart des gens veulent juste grappiller des expériences qui leur font du bien, plus ou moins longtemps. La sacro-sainte recherche du bien-être personnel. Et ils espèrent en effet le plus long possible, un effet le plus long possible, bien sûr, et même Ils sont à la recherche d'une expérience spirituelle tellement forte qu'elle leur permettrait de ne pas revenir en arrière. Mais s'ils ne la trouvent pas, c'est toujours une sorte de retour à la case départ. C'est vrai qu'en tant que pasteur, je ne suis pas nécessairement impartial, mais à mon humble avis un peu biaisé, c'est une vaine recherche. Plutôt une sorte de spirale infernale, et même si je prends des mots un peu exagérés, c'est certainement une insatisfaction permanente, persistante en tout cas. Hors du projet de Dieu, la spiritualité ne change pas la vie. Hors du projet de Dieu, la spiritualité ne change pas la vie. Et ça, je pense, c'est l'affirmation biblique, et c'est la mienne aussi. Ce que Dieu veut nous faire découvrir, c'est tout autre chose. C'est lui-même. Et là, il y a bel et bien un avant et un après. Parfois, il nous faut un peu de recul pour pleinement nous en rendre compte, mais oui. Quand on vit des choses avec Dieu, quand on découvre Dieu, il y a un avant et un après. Non ? Maintenant, vous vous dites peut-être, ouais, mais bon, quel rapport entre cette spiritualité et Georges Müller, alors ? Plein de choses, plein de choses. Ce que le monde propose, ce n'est pas une spiritualité qui va remettre en question globalement notre mode de vie ou notre vision du monde. La spiritualité est en général plutôt perçue comme, ou recherchée comme un plus, un petit plus, un gros plus, mais à une vie que je ne veux pas vraiment profondément remettre en question. Et si tel est le cas, cette spiritualité ne décolle pas beaucoup en fait. À l'opposé, Jésus a un élément de radicalité qu'il introduit. Et il nous demande d'être prêts à tout changer. Nous devons être prêts à tout changer. Même si ce n'est pas nécessairement ce que nous sommes appelés à faire au final. Mais sommes-nous prêts? Nous devons y être prêts. Et ça, c'est exigeant. Et ce genre de radicalité, plein de gens ils sont en recherche de spiritualité, mais ils ne veulent pas cette radicalité-là. Est-ce que nous sommes prêts à tout remettre à plat pour suivre Christ, pour faire que le règne de Dieu vienne, à commencer dans nos vies premièrement, comme Abraham, comme les premiers disciples, comme Georges Müller? Avec Jésus, nous ne restons pas maîtres de nos vies. Avec Jésus, nous ne restons pas maîtres de nos vies. C'est lui le maître. Le Seigneur, notre Seigneur, on l'a chanté déjà plein de fois ce matin. À moins que ce ne soit que des mots creux que nous prononçons. Je vous regarde, mais je ferais mieux de me regarder moi-même. Hein. De la biographie de Müller, on peut faire ressortir des éléments essentiels de la spiritualité, éléments que l'on devrait pouvoir faire ressortir de la biographie de n'importe quel homme ou femme engagé avec Dieu, que l'on devrait pouvoir voir dans notre biographie personnelle. Et je vous invite à en parcourir rapidement les trois principaux. Premièrement, évidemment, on a parlé de source. La source, c'est Dieu. Dieu, la source de notre spiritualité, de notre vie spirituelle. Ça semble tellement évident en tant que chrétien, mais ça me paraît utile de le rappeler quand même. Même d'insister. Et pour pleinement vivre cette source, vivre de cette source, il faut renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même pour pleinement entrer dans la profondeur de l'Évangile. C'est vrai qu'en évoquant ce mot « renoncement », on pense souvent automatiquement à une vision de pauvreté, soit de vie monastique, soit de quelque chose peut-être d'un peu précaire, en tout cas d'exposé. Et moi, je dois avouer que je ne suis pas très à l'aise avec ça. Sujet peut-être un peu tabou qui nous questionne sur l'argent, sur le confort et la part que ça prend dans nos vies. On se trompe un peu si on se cantonne juste à cette logique. Car soyons bien sûrs que l'on n'est pas appauvri dans une telle démarche de renoncement. Bien au contraire. Alors on peut dire évidemment que c'était une autre époque. Et c'est vrai que ça l'était à bien des égards, et le piège du confort est peut-être probablement plus difficile aujourd'hui pour nous chrétiens encore que ça ne l'était à l'époque de Müller. Mais ce que Müller a expérimenté tout au long de sa vie donne vraiment à réfléchir. Il a été dans la dépendance totale à Dieu. Dépendance totale, jour après jour, mais il n'a jamais été pauvre. Il n'a jamais été pauvre, ni lui, ni sa famille, ni ceux dont il s'occupait. Souvent, Dieu ne pourvoyait qu'à la dernière minute, mais il n'a jamais, et je souligne jamais, jamais manqué de nourriture. Il n'a même jamais été obligé de sauter un repas. Jamais obligé de devoir réduire les portions de nourriture de ses orphelins dont il s'occupait, et au plus fort de son ministère, il s'occupait quand même de 2000 d'entre eux. 2000, vous imaginez les besoins qu'il fallait. Imaginez tous les dons dont il avait besoin. Et pourtant, il mangeait régulièrement de la viande. Il y avait des repas copieux, nutritifs, bons et variés. Il n'a jamais manqué de quoi confortablement se loger et héberger tout le monde. Il n'a jamais manqué d'argent pour acheter des terrains ou construire les orphelinats, les bâtiments que Dieu lui mettait à cœur. Jamais manqué de quoi chauffer les lieux, de quoi vêtir tout le monde. Il n'a jamais manqué de personnel volontaire pour s'en occuper, pour enseigner. Bref, il n'a jamais manqué de rien dans aucun domaine ou détail. Jamais. Il a toujours eu tout ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Toujours. On peut se dire qu'il devait avoir vraiment une super communication pour faire connaître ses besoins aux églises alentours, qu'il devait avoir tout un bon réseau de soutien fraternel. Eh bien non, pas du tout. Des tas d'exemples le montrent, et j'en cite deux. Le premier, c'est quand il commençait à planifier l'ouverture du premier orphelinat et qu'il se demandait si c'était bien la volonté de Dieu. Sa prière toute simple avec sa femme a été « Cher Seigneur, prends notre peu de foi et multiplie-la. Si telle est ta volonté, donne-nous ce dont nous avons besoin, de l'argent, des vêtements, des ustensiles de cuisine, tant de choses. Nous te le demandons. Tu peux le faire. Amen. » Quelques minutes après, il entendit quelqu'un frapper à la porte arrière de la maison. Un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant portait des tas de paquets dans les bras. « Pour vos orphelins, » dit-il, en déposant les paquets et en repartant immédiatement avant que Müller ait pu dire quoi que ce soit. Ils ont ouvert les paquets. Venu de nulle part, un étranger venait d'apporter exactement la vaisselle dont l'orphelinat avait besoin. Comment pouvait-il savoir qu'il venait de prier juste pour cela? Deuxième exemple. Aujourd'hui, je n'ai pas un sou en main pour les orphelins. Et dans un jour ou deux, nous aurons besoin d'une grosse somme. Il commençait à se faire du souci, car maintenant, il avait à s'occuper de 96 orphelins. C'était au début de ce qu'il faisait. Ce jour-là, il implora Dieu. « Seigneur, la maison des bébés a besoin de 10 livres aujourd'hui. » Donc des livres sterling, hein, la monnaie en Angleterre. « Je leur ai donné tout ce qui restait dans la caisse, mais ce n'était que 5 livres. Ils ont besoin de 5 autres livres. Et ils en ont besoin aujourd'hui. Seigneur, je te fais confiance pour nous les fournir d'une manière ou d'une autre. Amen. » Et dans la même journée, une femme élégante et un peu prétentieuse vient chez lui et lui dit que Dieu lui a dit de ne plus porter les bijoux vulgaires qu'elle avait. Elle a décidé de les vendre, mais n'a pas encore eu le temps de le faire. Mais elle vient quand même lui donner l'argent qu'elle pense en tirer. Pas une grosse somme, dit-elle. Il compte 5 livres. 5 livres. Mais c'est une grosse somme, c'est exactement la réponse à la prière que nous avons faite ce matin. Dieu utilise des amis, des chrétiens, mais aussi très souvent des inconnus. Incroyable, hein ? Mais pourtant, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'anecdotes comme ça dans son livre, parce qu'il écrivait chaque jour ses prières, il écrivait chaque jour les réponses du Seigneur, etc. Tant d'anecdotes tout aussi stupéfiantes et stimulantes tout le long de sa vie. Impressionnant, même si parfois c'était un peu angoissant pour lui. Sa confiance a été régulièrement mise à l'épreuve. Elle a grandi quand même avec le temps. De plus en plus, il savait que Dieu allait pourvoir. Et Dieu était la seule et unique source. Et c'est ce verset, parmi d'autres, mais celui-là principalement, tiré des psaumes, qui lui a personnellement montré cette promesse de la part de Dieu. Psaume 81, verset 11, « Ouvre grand ta bouche et je la remplirai. » C'est assez radical, hein, mais Müller avait eu l'intime conviction de ne jamais demander à personne quoi que ce soit, de ne jamais faire connaître ses besoins à quiconque, sauf à Dieu seul. Je ne pense pas qu'il faille systématiquement faire la même chose, parce que quand on a un réseau d'amis, de frères, de soutien, ce n'est pas antibiblique du tout. Mais lui avait à cœur vraiment ça, de jamais demander à Dieu, de jamais demander à personne, sauf à Dieu. Sauf à Dieu, évidemment. Et donc il n'a jamais parlé de ses besoins, ni ses besoins personnels, ni ses besoins familiaux, ni ses besoins en lien avec les écoles et les orphelinats. Dieu, à quiconque il en a parlé, donc sinon de temps en temps à sa femme et à ses collaborateurs pour qu'ils prient ensemble, mais sinon il n'en a jamais parlé. Pendant les 75 ans de sa vie, enfin 73 ans de sa vie chrétienne, il n'en a jamais parlé. Jamais une lettre de nouvelles où il évoquait des sujets de prière particuliers, de besoins. 73 ans comme ça. Quelle galère, hein ? 73 ans. Eh ben non, ça n'a pas toujours été simple, évidemment, mais il a vraiment appris à expérimenter non pas la quiétude du pain quotidien, mais plutôt la reconnaissance de sa dépendance quotidienne envers Dieu pour son pain. On va dire, ah, je joue sur les mots en disant ça. Non, je pense que c'est bien plus qu'une nuance. Pas d'inquiétude du pain quotidien, mais la reconnaissance de sa dépendance quotidienne de Dieu pour son pain. Dieu n'est pas un tiroir caisse, Dieu n'est pas un distributeur automatique. Il ne faut pas arriver non plus à cette fausse compréhension de Dieu. Mais Dieu est ce Père aimant. Et si Dieu lui a mis au cœur tel ou tel ministère, telle ou telle œuvre, et on verra après comment il a, entre guillemets, est sûr que ce n'était pas juste une conviction qui venait de lui, alors Dieu pourvoit. Certains parmi nous, ça a pu être évoqué tout à l'heure, traversent effectivement ces périodes matériellement difficiles en ce moment. Et j'espère que ce genre de témoignage peut vous encourager. Mais j'espère aussi que ça va encourager ceux qui, comme moi, ont peut-être un peu plus de superflu, pour entendre aussi la voix qui peut-être, de la part de Dieu, nous met à cœur de l'utiliser pour les autres, même si leurs besoins ne nous sont pas nécessairement ouvertement exprimés. Que Dieu encourage ceux qui sont dans le besoin et que Dieu oriente ceux qui en ont plus. Et petite parenthèse, hein, mais je fais, c'est pas de la pub, mais si Dieu nous le met à cœur, et il n'y a pas là d'obligation non plus, hein, parce que Dieu nous met à cœur différentes personnes, différentes choses, il n'y a pas de souci là-dessus. Sachez que nous aussi, notre association culturelle a un petit fonds d'entraide, coup de pouce, qui permet aussi, en toute confidentialité, de pouvoir aider en tant qu'Église les uns ou les autres. Fin de la parenthèse. Enraciné dans la parole. Qu'est-ce qui permettait à Georges Müller de vivre avec une telle foi ? On peut se dire que c'est un peu trop beau pour être vrai quand même, hein ? Que c'était en tout cas parce qu'il était exceptionnel. C'était bon à son époque, mais que les choses aujourd'hui ont changé. Mais c'est marrant, c'est parce que c'est exactement ce qu'on lui disait à lui. Lui, il avait lu la biographie de quelqu'un d'autre qui avait fait 100 ans avant lui un autre orphelinat en Allemagne, et lui disait « Ah, moi, je veux, on va faire pareil ». Il dit « Non, mais c'était à son époque, ça marchait, maintenant ça marche plus, ce genre de truc ». Et peut-être qu'aujourd'hui, on se dit la même chose. « Ouais, à l'époque de Georges Müller, ça marchait comme ça, mais pas aujourd'hui. Nous, maintenant, on a des règles, on a des normes, on a des tas de trucs. » Ça ne marchait pas comme ça. Pourtant, M. Frank, là, celui qui a fait cet orphelinat en Allemagne un siècle auparavant, il avait aussi, lui, décidé de ne fonctionner que par la providence divine, dans la prière et la foi. On lui avait dit la même chose, et pourtant, il a fait confiance à Dieu, et Dieu a pourvu. Müller a fait confiance à Dieu, et Dieu a pourvu. Et nous ? Le pilier de la spiritualité biblique, et c'est un peu un pléonasme de le dire, mais c'est évidemment la Bible, et Müller y a vraiment fondé sa vie. Il s'en appropriait les promesses et les affirmations, ça nous a été rappelé tout à l'heure, hein, s'accrocher aux promesses de Dieu, les faire nôtres. Jamais il ne s'est dit, ouais, parce que les autres ont fait, je peux le faire quand même, non ? Non, mais plutôt il s'est dit, ce que Dieu a fait par le passé, il peut encore le faire aujourd'hui. Ce que Dieu a fait par le passé, il peut encore le faire aujourd'hui, parce que Dieu est fidèle et Dieu va prouver qu'il ne change pas. L'immuabilité de Dieu, le fait qu'il ne change pas, est effectivement quelque chose qui doit être essentiel dans notre foi, comme base de notre foi. On a déjà pas mal insisté aussi ces derniers temps là-dessus, Dieu qui ne change pas. Et la foi de Müller s'appuyait vraiment sur ce fait, notamment ce verset d'Hébreux. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je le cite encore, Müller, dans sa biographie. Si Dieu a exaucé une prière pour Franck en 1727, il en exaucera bien une autre pour Georges Müller en 1835. Aux gens qui ont des difficultés en tant que pasteur, il disait toujours « Oui, faites confiance à Dieu, priez, il va exaucer votre prière. » Mais ce n'était pas facile de les convaincre. « Alors moi, disait-il, je veux rendre évident que Dieu ne délaisse pas ceux qui se confient en lui selon sa volonté, pour sa seule gloire. » Telle était la motivation de Müller, et Dieu l'a honoré. Est-ce que ce n'est qu'une légende ? N'est-ce pas un cas exceptionnel ? Oui, Georges Müller était sûrement exceptionnel à bien des égards, mais ce qu'il a voulu souligner, c'est le fait que c'est Dieu qui est exceptionnel. Notre Dieu est exceptionnel. Exceptionnel, et comme il ne change pas, alors il fait des choses exceptionnelles avec nous aussi. Parce qu'il ne change pas. À nous d'être prêts à le vérifier, en nous abandonnant à lui. Ça, c'est parfois un gros défi, n'est-ce pas ? On ose ou on n'ose pas ? À titre personnel ou en église ? Et le dernier point, guidé par l'esprit. Il ne s'agit pas évidemment de faire n'importe quoi ou demander ce qui nous passe par la tête. Et c'est pour cela que je souligne ce troisième point. Le dernier que nous aborderons, faute de temps, ça tourne, être guidé par l'Esprit, bien sûr. Et on peut voir qu'on boucle là la Trinité aussi, hein. Dieu le Père, le Fils la parole et l'Esprit. Comment discerner la volonté de Dieu ? Comment être à l'écoute de Dieu ? Quand Müller avait des idées en tête, il demandait juste à Dieu, avec sincérité, de lui enlever ses idées si elles ne venaient pas de lui. Si elles étaient le fruit de sa propre imagination, ou de sa propre volonté, ou de son orgueil. Par contre, si cela venait de Dieu, il désirait que Dieu renforce et précise cette conviction, et ouvre clairement les portes. En termes de spiritualité, n'oublions pas en effet que le rôle de l'Esprit-Saint n'est pas tellement de nous apporter quelque chose, mais bien de nous porter vers quelqu'un, nous porter vers le Père. Qu'ainsi nous connaîtrons, et dont nous connaîtrons ainsi mieux la volonté. Müller n'a jamais fait les choses dans la précipitation, car Dieu a le temps. Mais avec une entière persévérance, il a recherché la guidance de l'Esprit et a appris à entendre sa voix, à avancer avec confiance et paix, même s'il ne savait pas toujours où Dieu allait le mener, mais il savait que Dieu lui le savait. Alors il ne s'inquiétait pas, et il n'en a jamais douté en tout cas. Et pour conclure, je vous lis simplement, et je vous laisserai y réfléchir, la méthode que lui utilisait. Méthode qui peut... Il y en a d'autres, hein, évidemment, mais... Premièrement, je cherche d'abord à m'assurer s'il n'y a pas dans mon cœur aucune volonté propre sur un sujet quelconque. Les 9/10 du tourment que se donnent certaines personnes, disait-il, provient en général de ce fait. Les 9/10 des difficultés sont vaincues lorsque nos cœurs sont prêts à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Quand on est véritablement dans un tel état, la volonté de Dieu ne tarde pas à nous être révélée. Deuxièmement, ce premier point acquis, je ne m'attarde pas aux sentiments et aux impressions. S'il en était ainsi, je tomberais bientôt dans de grandes illusions. Troisièmement, je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu dans la parole de Dieu. L'Esprit et la parole vont ensemble. Si je consulte le Saint-Esprit sans la parole, je peux encore me faire des illusions, disait-il. Si le Saint-Esprit me conduit, ce sera toujours en accord avec les Écritures. Quatrièmement, ensuite, je mets les circonstances dans la balance. Ces dernières indiquent souvent la volonté de Dieu, d'accord avec la parole et le Saint-Esprit, et je lui laisse ouvrir ou fermer les portes comme lui le souhaite. Cinquièmement, je supplie encore Dieu de me révéler toute sa volonté. Et comme il était très comptable, hein, je le disais tout à l'heure, il disait, ça fait 447 jours que je prise pour ceci, ma conviction commence à augmenter. C'était pas toujours instantané, hein, surtout sur les gros projets de long terme. Hein. Il était vraiment réfléchi dans sa façon d'avancer avec le Seigneur, mais en même temps déterminé et confiant. Et ça, ça m'a impressionné. C'était pas, allez, c'est bon, j'ai vraiment un truc à cœur, on y va. Il prenait son temps, et Dieu a accompli les choses en son temps. Ainsi, sixièmement, par la prière, l'étude de la parole, la réflexion, je viens à me former un jugement. Et selon ma connaissance et ma capacité, mon esprit étant en paix, je prends la détermination d'agir, toujours dans un esprit de prière, dans les choses ordinaires et dans les transactions de grande importance. Cette méthode m'a toujours réussi. C'est pas mal réussi, puisqu'au final, Dieu a permis qu'il vive l'Évangile et transmette l'Évangile en parole et en acte à quelque 10 000 orphelins et les écoles bibliques qu'il a fondées à 120 000 personnes à travers toute sa vie. Vivre l'Évangile, et c'est là la clé du bonheur, vivre l'Évangile et faire connaître l'Évangile. Cet évangile que Müller et bien d'autres encore ont vécu intensément par le Saint-Esprit vivant en eux. Que le Seigneur nous permette nous aussi de le vivre aussi intensément. Ma volonté est un peu vacillante, mais ce matin je veux dire oui, je le veux. Oui Seigneur, nous le voulons. Aide-moi, Seigneur. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, notre volonté personnelle.